Mazarine Pinjot, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour votre nouveau livre, « Vivre sans, une philosophie du manque » qui vient de paraître chez Climat. Mazarine Pinjot, vous êtes professeure de philosophie et vous enseignez actuellement à Sciences Po Bordeaux. Donc dans « Vivre sans », vous interrogez ce paradoxe qui est on a le sentiment de vivre dans une société où la question du manque est à la fois omniprésente, mais ni véritablement pensée, ni véritablement assumée. Elle prend, on le verra, plusieurs formes. Une forme très liée à ce que le marché en fait, c'est-à-dire tout ce qu'on entend, du sans gluten, sans nicotine et autres sans. Mais il y a aussi, effectivement, d'autres sans qui ont une autre forme de gravité, que vous évoquez aussi, les sans-papiers, par exemple, ou les sans-domicile fixe. Et ce que vous essayez de faire dans ce livre, c'est, même si on reviendra, je pense, sur la notion, parce que vous faites une critique de la philosophie nietzschéenne assez serrée, vous faites un travail assez généalogique qui est d'essayer de comprendre d'où vient cette notion, comment elle a traversé pour partie la philosophie, en ayant voilà, à la fois un abord thématique et historique par rapport à cette question. Alors, tout simplement, pour commencer, partir de l'aujourd'hui que nous évoquions, c'est-à-dire, ce que vous dites en ouverture de ce livre, c'est qu'à la fois le sang est partout, mais il n'est ni vraiment vécu, ni vraiment pensé.
Oui, en effet, au départ, toute l'accroche, on va dire, du livre, et le point de départ, c'est vraiment une réflexion sur la grammaire marketing qui nous abreuve depuis quelques années de cet adverbe ou préposition, on peut dire les deux, sans, S-A-N-S, donc pas S-A-N-G, bien sûr, hein, S-A-N-S, et qui est arrivé sur nos étiquettes du sans gluten, sans sucre, sans sulfate, sans huile de palme, etc. Alors, on en comprend bien l'intérêt, bien sûr. Il ne s'agit pas de remettre en question une manière différente de produire, mais plutôt d'interroger ce tour de passe-passe assez remarquable, hein, d'ailleurs, qui a consisté à transformer le sang, donc l'absence, en valeur ajoutée. Et en effet, il se trouve que les produits sans sont plus chers, coûtent plus cher que les produits avec. Et d'ailleurs, on n'a même plus besoin de préciser avec quoi ils sont faits, puisque c'est le sang qui devient une valeur d'appel et non plus le reste des ingrédients qui constituent un produit. Et donc, je trouvais intéressant, enfin, c'est d'abord l'usage de cet adverbe qui m'a au départ intéressée, amusée, et puis qui m'a menée vers une exploration, alors qui n'est pas sans lien avec mes recherches et mes questionnements par ailleurs, une exploration de ce qu'il en est du manque, au départ du manque, la terminologie pour l'instant est un peu imprécise, on va dire. J'appelle le manque quelque chose d'assez global, ce qu'il n'y a pas, l'absence, le vide, etc. Mais parce que, au fur et à mesure, j'essaye d'aller vers quelque chose qui est très difficile à saisir, puisque justement, ça n'est pas quelque chose. C'est du manque, mais du manque intransitif. C'est pas du manque de quelque chose, c'est du manque au sens où il y aurait quelque chose d'un autre ordre que du plein, du tout. Voilà, moi, ça... essayer d'élaborer ça au fur et à mesure, parce que c'est peut-être un petit peu abrupt de le dire comme ça. Toujours est-il que j'ai investi cette question du manque d'abord à travers les grands jalons de l'histoire de la philosophie pour voir comment il était interprété, et ensuite pour essayer de construire à mon tour, en dialogue avec ces auteurs, ce qu'on pourrait entendre par un manque authentique qui permettrait éventuellement de construire un modèle alternatif à l'immanence totale du marché, pour le dire rapidement.
Avec, justement, avant d'en arriver peut-être à ce moment historique, dans le moment initial de votre livre, deux éléments qui sont importants, c'est que cette absence de manque, paradoxalement, c'est-à-dire cette idée que tout est un peu plein, c'est aussi un manque de négativité, et que cette absence de négativité, elle se ressent d'un point de vue politique, où vous mettez un peu dos à dos, on va dire, de choses qui semblent refermer actuellement la démocratie, c'est-à-dire ce qu'on appelle de façon très vague le wokisme d'un côté et de l'autre la réaction, qui sont deux façons de penser entièrement pleines, c'est-à-dire qui sont autonomes sur elles-mêmes, qui semblent toujours avoir déjà raison, et qui font que finalement aucun débat n'est possible. Et que ça, c'est l'un des exemples justement de la conséquence du fait de ne pas penser le manque.
Exactement, c'est l'une des incarnations de cette ontologie du plein, hein, si on veut utiliser des gros mots. C'est l'une des incarnations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ou le manque, qu'on peut aussi figurer comme la question, comme l'introduction d'une négation. Alors, on va reparler peut-être de la négation, parce qu'en effet, il y a cette idée qu'il n'y a plus de négativité, mais en même temps, il y en a toujours. C'est-à-dire que mais c'est une négativité qui est au profit d'autre chose, quoi. C'est une négativité dialectique qui est amenée toujours à être dépassée. Le manque, dans une société consumériste, il est amené à être dépassé par la consommation, et puis à renaître, évidemment, de ses cendres pour amener à nouveau de la consommation, etc. Enfin, c'est le cycle perpétuel de la consommation. Et donc, c'est un faux manque. D'un point de vue politique, en effet, aujourd'hui, et c'est assez, c'est assez palpable, mais et en même temps, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque moment de grande crise et qu'avait déjà identifié Kant dans la préface de la première critique, à savoir cette oscillation, alors permanente, qui est inhérente à la raison elle-même, à la nature de la raison elle-même, et qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire en général, puisque quand la philosophie est en crise, c'est souvent que le reste aussi est un peu en crise. Oscillation entre d'un côté un scepticisme total, où on ne croit plus en rien, et très clairement aujourd'hui ça prend la forme de la post-vérité, des alternative facts, de toute cette indifférence au vrai, et donc les fake news, tout ce système de relativisme total, et de l'autre côté un fort retour du dogmatisme qui prend lui d'autres visages. Alors en effet, le double visage d'un wokisme excessif, on va dire, ou en tout cas péremptoire, puisque c'est la forme dogmatique, moi, que j'essaye d'identifier, c'est pas tant le contenu, et de l'autre côté, en effet, le retour de la réaction, de l'extrême droite, etc. Mais on peut dire aussi, d'une certaine manière, que au centre, une forme de pensée néolibérale qui s'ignore, ou qui s'ignore pas tant que ça, mais en tout cas qui s'interroge pas beaucoup d'elle-même, est aussi une forme de dogmatisme, dans la mesure où elle consiste à transformer le champ politique en un champ d'experts. Or, la politique reste un débat d'idées, de réflexion, de questionnement, et non pas une question de gestion. Parce que qui dit gestion dit qu'on a déjà répondu à des questions qu'on ne s'est d'ailleurs pas posées. Et donc, le manque renvoie à cette idée que... à l'idée de la critique, précisément, qui est sans doute la plus difficile à tenir, et qui est ce chemin de crête très étroit que Kant va essayer justement de réarmer, même si aujourd'hui la critique est tout à fait désarmée. Et il me semble que c'est typique d'une crise de la démocratie, puisque la démocratie, c'est le régime politique à proprement parler du manque. C'est celui de l'indécision, c'est celui où il n'y a pas un fondement transcendant qui viendrait satisfaire nos inquiétudes, c'est celui du lieu vide du pouvoir, donc c'est à proprement parler celui du manque. Et donc dès lors que le manque est récusé ou évacué ou contourné par une réponse économique, en l'occurrence, qui va le transformer en manque d'avoir, renaissant de ses cendres indéfiniment, et bien d'une certaine manière, et puis de l'autre côté, donc des réponses toutes faites que seraient les différents dogmatismes, voire les fondamentalismes, et bien c'est évidemment la démocratie qui est en danger, mais c'est normal parce que c'est ce qui est aussi le plus difficile à tenir, l'incertitude.
Alors justement, vous commencez par une ouverture sur la façon dont cette chose-là est pensée dans le cadre grec, et ce qui est assez passionnant, c'est de comprendre comment à la fois on retrouve des termes qui vont se perpétuer sur toute l'histoire de la philosophie jusqu'à aujourd'hui, mais avec des cadres de pensée différents. Et c'est très intéressant, c'est la façon dont vous tenez les deux. C'est-à-dire que ce que vous dites finalement, c'est que dans le cadre grec, ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que l'univers grec, c'est un monde plein. Ouais. C'est-à-dire que c'est le cosmos, c'est-à-dire que c'est un monde organisé. Et néanmoins, à l'intérieur de ce monde-là, d'un point de vue philosophique, il y a déjà une réflexion poussée sur la question du manque, elle-même liée à la question du désir. Ouais. Et pour ça, le premier point que vous abordez, c'est l'opposition entre Socrate et Calliclès dans le Gorgias, qui sont deux lectures complètement différentes de qu'est-ce qu'on fait du manque et du désir.
Oui, c'est un point compliqué, ça, de ma réflexion, et en général, c'est comment on fait une histoire d'une notion, même si c'est pas uniquement l'ambition du livre, puisque c'est une histoire choisie, il y a plein de pans de l'histoire de la philosophie qui sont mis de côté, et aussi de l'histoire de la religion, mais ça c'est une décision. En effet, c'est difficile de faire une histoire sans rappeler les contextes, les contextes globaux, épistémologiques, et puis qui induit nécessairement un rapport au monde de l'homme vis-à-vis de ce qui l'entoure. Et donc, en effet, dans le cosmos grec, forcément, le manque ne peut pas s'entendre de la même manière qu'à partir de la modernité, où la question de l'infini va devenir la grande question de l'homme, et où le manque va s'inscrire très précisément dans cette structure de non-adéquation entre la finitude humaine et l'infini positif qui est là, quoi, qui est là et qu'on ne peut pas penser. Et donc, il y a cette inadéquation qui va permettre de modéliser ce qu'il en est du manque, enfin, de modéliser le fait qu'on ne peut jamais se rejoindre soi-même, le fait qu'il n'y a pas de synthèse possible, le fait que le tragique aussi est pensable, et le fait que le non, enfin la négation, est censée, comment dire, être au cœur même de la structure de l'homme, quoi. Bon, mais ça, on y reviendra. Et donc, dans la cosmologie grecque, en effet, alors, les modalités sont tout à fait différentes, puisque le fini est normatif, puisque l'idée de la totalité, de la plénitude, d'un sens immanent même au cosmos, puisque la nature elle-même, une loi de la nature qui s'impose aux hommes, et qu'il suffit d'essayer de connaître, hein, pour savoir comment se comporter dans le monde, eh bien, et qui assigne donc une place naturelle à l'homme, la question du manque, forcément, paraît d'emblée négative, péjorative, puisque si on manque de quelque chose, c'est qu'on n'a pas atteint sa finalité, son acte, et qu'on est encore en puissance de quelque chose, si on veut reprendre les catégories aristotéliciennes, ou que quelque chose fait désordre, et donc il faut retrouver l'ordre qui, donc, suppose la plénitude. C'est pas pour rien que l'un des idéaux grecs moral, c'est l'ataraxie, c'est l'absence de souffrance et donc l'absence de désir aussi. Enfin, en tout cas, on fait le ménage parmi les désirs qui sont excessifs et qui nous entraîneraient au-delà de notre nature. La grande question des Grecs, hein, c'est la question de la limite. Comment ne pas dépasser la limite ? L'hubris étant l'un des défauts majeurs de l'homme qu'il paye en général très cher et qui est d'ailleurs qui motive son premier acte de révolte. Enfin, son premier acte, on n'est pas dans une chronologie, mais l'un de ses premiers actes au sens d'une fondation, qui est celui de Prométhée, qui vole le feu aux dieux et donc qui transgresse. Et en effet, la transgression, c'est mal vu. Mais il y a quand même la voie adverse, qui est celle de Calliclès, qui est l'un des plus beaux adversaires de Socrate, et qui dit, non, le manque, c'est la vie. Si on ne manque pas, on ne désire pas, sans désir, sans mouvement, enfin, c'est-à-dire il prend vraiment à contre-pied tout ce qui est fait norme et vertu chez les Grecs. Il dit la vie sans le désir, c'est la vie d'une pierre. Donc moi, c'est pas du tout la vie que je veux. Et c'est vrai qu'il a une voix extraordinairement moderne qui résonne encore et d'ailleurs qui déstabilise Socrate. Et donc c'est très intéressant de voir comment il arrive à faire du manque quelque chose qui est de l'ordre d'une puissance finalement. Et ça, on va le retrouver peut-être dans des philosophies contemporaines, modernes d'abord et contemporaines. Mais il n'empêche que ça s'inscrit quand même dans un cadre qui n'est pas transposable. Qui n'est pas transposable, mais quand même auquel on aspire à retourner aujourd'hui. Il y a quand même pas mal de modèles de décroissance qui considèrent le cosmos, ou Gaïa par exemple, comme une sorte de divinité pleine dont il faudrait retrouver l'équilibre et l'harmonie. On n'est pas très loin d'un retour à l'idée du cosmos antique.
Oui, mais cette idée du retour au cosmos antique, elle tient aussi à l'idée de la finitude. C'est-à-dire que on passera par le moment moderne de l'infinité, mais ce qui est intéressant, c'est que l'appel contemporain à la tempérance, à la décroissance, il est aussi fondé sur l'idée que les ressources sont finies, ce qu'on a longtemps nié, et que c'est pour ça qu'on retrouve aussi, même si c'est un peu amoindri sous la forme de la sobriété heureuse ou de pensée comme ça, mais on retrouve cette pensée de la finitude, parce que c'est aussi le sentiment que certes, l'univers dans son absolutité est infini, mais en revanche, le monde de ressources dans lequel nous on vit, lui, il est fini. Et donc, effectivement, si nous sommes des tonneaux percés, ça ne tiendra pas longtemps.
Ouais. Oui, on prend acte de cette finitude, mais sauf que, enfin voilà, c'est devenu une contrainte qui nous impose de changer de paradigme. Alors que chez les Grecs, c'était quelque chose de tout à fait positif. Donc forcément, c'est pas plus tout à fait la même atmosphère, on va dire.
Avec cette idée de la non-maîtrise, du refus de l'acceptation du manque, qui est le rapport à ce que vous appelez la pléonexie, justement qui s'oppose à l'ataraxie, là comme arrêt des émotions, au sens où il n'y a pas de manque. Et comment pour vous, parce que ça vous l'évoquez pas complètement, mais c'est quand même aussi présent, comment ça vient s'articuler la question du désir? Est-ce qu'il y a une tension Ou est-ce que l'un est moteur de l'autre? Est-ce que ce sont deux ordres qui n'ont pas à voir?
C'est toute l'ambiguïté et l'ambivalence du désir. C'est-à-dire que... Et c'est aussi toute la force du message capitaliste, de dire que le désir est un désir d'objet. Il n'y a pas de désir d'objet, on le sait bien. Enfin, ce n'est pas l'objet qui est la cause du désir. Néanmoins, d'avoir identifié le désir à sa cause, c'est un tour de passe-passe génial. C'est-à-dire qu'on a évacué le questionnement sur le désir, qui pourtant est très massif, surtout à partir de Spinoza, Hobbes, Spinoza, et puis après relayé par Freud. Enfin, après il y a plein d'autres auteurs, mais des grands marqueurs comme ça qui font quand même du désir le point nodal de leur pensée. On sait bien avec ces auteurs que l'objet sur lequel ils se fixent n'est pas cause, mais prétexte. Et donc le désir, alors donc on pourrait dire qu'il y a trois manières de définir le désir. Il y a celui qui le réduit à son objet, ça c'est le désir de consommation, bon, qui s'origine à un autre désir, mais qui a été traduit de cette manière-là pour faire plus simple et plus fonctionnel. C'est efficient. Le système de consommation, il est extrêmement efficient. Il nous le divertit, il nous rassure. Il crée aussi d'autres formes d'angoisse, mais ça, c'est autre chose. Mais ça, en tout cas, ça marche. Visiblement, ça marche. Sinon, on en serait déjà sorti. Donc, il y a ce désir associé à son objet. Ensuite, il y a deux manières, au fond, les vraies deux manières de penser le désir. C'est celle qui consiste à penser le désir comme une puissance d'être. Donc c'est plutôt l'aspect spinoziste. Et puis, c'est celle qui consiste à relier le désir au manque. Donc, soit c'est dans la puissance, dans la plénitude, la positivité, soit c'est dans l'absence, dans une structure d'inadéquation, dans une structure de finitude, mais d'une finitude qui veut l'infini. Et donc c'est dans cette inadéquation, dans cette impossibilité de posséder la chose, que se nourrirait le désir. On peut osciller entre ces deux définitions qui sont toutes les deux très belles, au fond, mais moi, il me semble, étant cartésienne et plutôt lévinassienne, et kantienne, si je fais une sorte de filiation, que le désir qui se nourrit du manque a peut-être quelque chose à nous raconter sur notre condition, plus que le désir qui serait pure puissance. Ah, parce que le désir qui est pure puissance alimente nécessairement une ontologie du plein.
Justement, c'est à partir de cette ontologie du plein, ce que vous décrivez très bien, c'est que arrive, on va dire pour simplifier, entre le 15e et le 16e, une sorte de triple crise, qui est une crise à la fois de la connaissance, de la spiritualité et puis de l'épistémologie, c'est-à-dire c'est le moment où à la fois la Terre n'étant plus le monde, l'univers devenant héliocentré, les voyages à l'extérieur ici découvrant le côté relatif de nos connaissances et puis la découverte de l'infini du monde fait que cela crée un trouble qui va amener complètement une autre forme de philosophie.
Oui, alors la question là du manque, forcément, change. Enfin, on change de paradigme, donc tout change. La chose la plus importante, à mon sens, tout est important, mais moi, ce qui alimente ma réflexion et ce que je pense être finalement le plus radical, c'est la découverte de l'infini. Ce que décrit merveilleusement bien Pascal, quoi. C'est vraiment tout à coup le fait de se rendre compte qu'on est nulle part. Qu'il n'y a pas de lieu, au contraire de la physique aristotélicienne, il n'y a pas de lieu propre, il n'y a pas d'orientation. On va être obligé de s'orienter soi-même dans la pensée et dans l'univers. Alors, on a des méthodes pour ça, pour s'orienter sur les océans de plus en plus et pour arriver à rapetisser la Terre et à en faire le tour. Pas encore, mais bon, voilà, on commence à conquérir de nouveaux espaces. Mais en revanche, il y a cette idée que l'homme a perdu son assise, quoi. Alors, il va la retrouver dans la pensée, dans le cogito cartésien, qui pourrait être ensuite interprété de plein de manières différentes, la raison, l'individu, le sujet. Voilà. Mais en tout cas, il la retrouve quelque part dans le cogito. On ne va pas du coup traduire. Mais bon, le cogito, il est... C'est l'homme, d'une certaine manière, qui a lui-même sa propre assise, quoi, et qui se retrouve confronté à une immensité. Donc là, on a une tension entre le fini et l'infini qui est passionnante, qui est désespérante, sans doute, bien sûr, mais qui permet de comprendre que de cette désespérance va pouvoir aussi se produire quelque chose qui est de l'ordre de la symbolisation, la sublimation, la recherche. C'est la recherche scientifique aussi qui s'accélère, mais pas seulement forcément dans le champ des sciences. Alors bon, c'est aussi l'époque de toutes les grandes perturbations religieuses, hein, parce que tout ça aussi a été initié par la réforme luthérienne au XVIe siècle, où la question de l'individu émerge dans son rapport immédiat à Dieu et sans intermédiation, etc., etc. Bon, tout ça pour dire que tout à coup, il y a un choc entre fini et infini. Et ce choc, on aura de cesse d'essayer de le dépasser, de le circonscrire, de le récupérer. Et la meilleure récupération qui sera faite, c'est celle de la dialectique. La dialectique, elle permet d'arriver à articuler le fini et l'infini, les individus et le collectif, les instants et l'absolu. Enfin, voilà, il y a un schème comme ça qui se met en place à partir du XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle. Et ça va être évidemment encore plus repris à travers les philosophies de l'histoire, chez Hegel et puis Marx. Ce schème dialectique qui consiste à faire du négatif, de cette négativité qui est finalement le choc entre le fini et l'infini, qui est incompressible et insolvable, en quelque sorte, va faire de ce choc quelque chose qui est un moteur à l'intérieur d'une dynamique. Donc on le récupère, on en fait un moteur, et donc la question du négatif, de la question de cette disproportion qui est en quelque sorte, encore une fois, notre condition, est récupérée par la pensée et devient d'une certaine manière domestiquée. Et donc c'est formidable d'une certaine façon. Alors c'est la structure du marché aussi, hein. Enfin en tout cas du premier marché chez Smith, l'idée de la main invisible, voilà, ça fonctionne tout seul, tous les petits intérêts privés concourent pour créer de la richesse collective. Formidable. Donc, d'une certaine manière, il y a une première réponse philosophique. Et alors, il y a une deuxième réponse philosophique après. On va dire, j'y vais vraiment au pas de course, mais moi, j'essaie surtout de repérer des structures. C'est pas tant une histoire de la philosophie que de repérer des structures. Il y a une deuxième manière de dissoudre le négatif. Et là, c'est une confrontation que je vais reprendre parce qu'elle n'est pas du tout finie avec Nietzsche, qui est un philosophe que j'adore. Et je pense que je suis très injuste avec lui dans ce livre, mais parce que pour une décision purement stratégique, je lis Nietzsche de façon deleuzienne, on va dire. Et donc c'est plutôt Deleuze en fait oui, l'adversaire.
Ce qui se sent, c'est.
C'est pas Nietzsche, mais voilà. Et donc Deleuze lui va faire un autre sort au négatif, un sort anti-hegélien, mais lui il va complètement dissoudre le négatif dans le différentiel, dans. Et moi il me semble que dans ces deux types de réponses au négatif, eh bien, il y a une sorte de décision dogmatique qui décide, enfin, qui dit, en fait, enfin, qui revient à une forme d'ontologie du tout. Bon, là, j'ai l'impression, je pense que là, j'ai perdu tout le monde. Mais alors, en tout cas, qui revient à un champ d'immanence pure.
Avant de tout à fait, on va venir au champ d'immanence, mais je voudrais qu'on redétaille un peu justement ces deux pistes que vous avez évoquées là, c'est-à-dire d'un côté la question dialectique et de l'autre la mise en place du tout par l'immanence. Sur la version dialectique, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que cette tension du fini et de l'infini, la première interprétation du travail que vous faites, c'est sur le versant politique, c'est-à-dire d'abord avec la fable des abeilles de Mondeville et puis en revenant un peu en avant. Hobbes et Rousseau, c'est-à-dire que cette tension entre l'individu et le tout, c'est-à-dire qu'en fait, on a des individus qui sont beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient, mais il faut qu'ils fassent société, donc comment est-ce qu'on articule les deux? Et l'idée, surtout, cette tension, et puis l'idée donc, qui est présente dans la fable des abeilles, qui est que les vices privés font la vertu publique, c'est aussi un rapport qu'il y a profondément une perfectibilité de l'homme. C'est une idée qui, évidemment, est présente chez Prométhée. Est-ce que si Prométhée donne le feu, c'est parce que les hommes n'ont rien? Mais cette idée, elle est reprise vraiment de façon constitutive dans la politique, particulièrement chez Rousseau et chez Hobbes. Mais, et ça, c'est intéressant, et vous le détaillez, avec deux anthropologies complètement différentes. C'est-à-dire que, d'une idée assez proche, finalement, Rousseau fait une lecture de la nature de l'homme complètement différente de celle de Hobbes. Et je pense que c'est important que vous le détailliez parce que ça joue après dans ce qui va se produire en termes de lecture politique.
Oui, c'est vrai, parce que en fait, l'anthropologie de Hobbes, elle est très pessimiste et matérialiste. Les hommes ont des désirs de puissance, de gloire, sont en guerre les uns contre les autres. Et surtout, ils ne sont égaux que par rapport à la mort. C'est finalement la mort qui égalise. Donc, c'est la condition mortelle des hommes. C'est un fait qui égalise le premier état de nature. Enfin, dans le premier état de nature, dans l'état de nature, les hommes. Donc, ils sont égaux parce qu'ils vont mourir. Et ces hommes sont mus par des passions par des rapports de force, pour le dire de manière anachronique. Bon. Évidemment, à partir de ça, comment va se créer le collectif ? Donc la grande question des contractualistes, et d'ailleurs qui est une question dont on n'arrive toujours pas à venir à bout, qui est encore une question qui se repose aujourd'hui de manière extrêmement urgente et actuelle, c'est comment, alors ils partent donc des individus, c'est l'individualisme méthodologique, si on prend là aussi de manière un peu anachronique Durkheim, pour arriver au tout. Donc comment on fait pour partir d'atomes et pour fabriquer un tout ? Chez Hobbes, à partir du moment où son anthropologie elle est aussi négative, la seule raison pour laquelle on veut bien se séparer de sa liberté à l'état de nature, c'est la sécurité. Ça va de soi. Si l'égalité, c'est la violence et la possibilité de la mort, ce qu'il faut fuir, c'est la violence et la possibilité de la mort. Et donc, ce à quoi il faut accéder, c'est un état fort qui va nous assurer la sécurité, et peu importe notre liberté, de toute façon, elle était assez minimale puisqu'elle était contredite par la liberté de l'autre. Première chose, chez Hobbes, on est dans un désir qui est une persévérance, une puissance d'être. Le désir, c'est avoir, c'est posséder, c'est être meilleur que l'autre, etc. Son désir, il est à cet endroit-là. Enfin, la notion qu'il a du désir, il est à cet endroit-là. Chez Rousseau, c'est pas du tout la même chose. Donc, l'état de nature, les hommes sont dispersés, ils sont ni bons ni mauvais, ils sont rien du tout, ils n'ont pas de relation de toute façon. Donc, ils sont quand même en eux la pitié et l'amour de soi. Bon, voilà. Donc, ils ont envie quand même de persévérer dans leur rêve, enfin, de survivre en gros. Et puis, ils ont quand même une tendance à voir chez l'autre la souffrance, y compris chez les animaux. Et donc, la raison pour laquelle ils vont contracter, c'est plus du tout la même, même s'ils vont y être contraints dans la fiction de l'état de nature, c'est justement pour préserver cette liberté. Et la grande question, c'est là encore, comment à partir d'individus épars, on arrive à faire un tout ? Et ça veut dire quoi ce tout ? Et c'est vrai que c'est une question aujourd'hui évidemment qui se repose, puisque ce tout, on voit bien aujourd'hui comment le peuple, il sert soit au discours populiste, et donc c'est le peuple contre les élites, donc du coup c'est pas tout à fait tout le peuple, soit il est complètement oublié, soit... Bon voilà, en tout cas le tout, on sait pas lequel il est, on sait plus trop de quoi on parle. Et donc le contrat social chez Rousseau, il est rendu possible, alors c'est très lié, c'est-à-dire que les institutions, et la Constitution, puis les institutions, vont permettre à l'homme de se perfectionner. C'est-à-dire que c'est uniquement dans un état qui serait juste, en quelque sorte, que l'homme pourrait se perfectionner. Il y a un lien intrinsèque entre le fait de pouvoir se perfectionner et les institutions politiques. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on voit que c'est que dans une démocratie, en tout cas le fondement démocratique, que l'homme pourrait se perfectionner. Mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a que dans la démocratie que le questionnement, que la transformation de soi peut advenir. Parce qu'il y a la condition de la liberté. Et donc là, la question du désir, elle change elle aussi, puisqu'il y a ce désir qui n'est plus un désir d'objet, mais plus un désir de se transformer, de s'améliorer, etc.
Oui, avec cette donnée qui est très importante, alors qui pour le coup est très 18e siècle, qui est l'idée que progrès humain, perfection morale. Oui. C'est-à-dire que là, on retombe ce que vous évoquiez sur entre le manque d'être et le manque d'avoir. Là, on est vraiment sur le versant, pour le coup, du manque d'être. C'est-à-dire qu'il y a un horizon et que, puisqu'il y a une perfectibilité, il faut aller tendre du côté, de l'amélioration morale de l'humanité. Et ce que vous montrez très bien, justement, c'est que on vit actuellement, et vous prenez, même si c'est pas un mouvement de fond, mais c'est intéressant comme symptôme, la question du transhumanisme, qui littéralement reprend cette idée de perfectibilité, mais en y injectant le biologique, ce n'est pas du tout le projet évidemment rousseauiste, et qui du coup à la fois s'éloigne de ce projet rousseauiste, et en même temps ce que vous évoquiez sur le fait que ce qui fait l'égalité chez Hobbes, c'est l'égalité devant la mort, et que le transhumanisme a comme horizon précisément la rupture de cette égalité devant la mort.
Exactement. C'est-à-dire que si on continue à être hobbesien, on pourrait d'abord dire donc la sécurité, ok, c'est le truc qu'on veut atteindre, mais à côté de sa sécurité, le marché est libre. On peut tout à fait être hobbesien et ultra-libéral, enfin, à condition de penser à un État fort pour ce qui est de la sécurité. Donc, ce n'est pas incompatible. Et donc, dans cet État, on peut tout à fait imaginer la croissance du transhumanisme qui lui-même est né dans la Silicon Valley et qui est largement mécéné par les GAFAM, quoi. Enfin, et donc, on est vraiment dans un projet... pour le coup, c'est pas du tout politique. Au départ, pas du tout politique, mais purement privé. Enfin, pas politique au sens où il y aurait une concertation des individus pour savoir quel est leur bien-être commun, etc. C'est vraiment une entreprise privée qui consiste à transformer l'homme. Alors, dans la perfectibilité rousseauiste, c'est pas du tout ça. C'est comment peut-on avoir des institutions qui nous permettent d'être bons? Donc on n'est pas du tout là-dedans, on est dans l'idée que l'homme n'est pas seul et que c'est uniquement dans un certain régime politique qui peut s'améliorer moralement. Mais moralement, ça ne veut pas dire physiquement. Alors que dans le projet transhumaniste, l'idée, et là donc on retombe du côté de chez Hobbes, c'est de transformer physiquement l'homme. Alors le transformer physiquement à travers une rencontre entre les nanotechnologies, la biologie, etc. etc. et effectivement, à terme, évacuer la mort. La vulnérabilité, la souffrance, la vieillesse, et puis la mort. Et donc, première conséquence, si la mort n'existe plus, qu'en est-il des fondations de la démocratie de Hobbes? Parce que ça reste une démocratie, même si ça donne lieu à un État autoritaire, dans son fondement, ça reste une démocratie, puisque c'est quand même les individus qui passent contrat. Elle n'aura plus lieu d'être, par définition, puisqu'il y aura deux humanités. Il y a celle qui survivra, puis il y aura les prolétaires, qui seront ceux qui sont amenés à mourir, à vieillir, à des rides, à souffrir et à mourir. Donc très clairement, les conditions d'égalité ne seront plus assurées dans la vision transhumaniste. D'ailleurs, je pense que les transhumanistes ne sont pas de grands humanistes. Et l'égalité politique ne les intéresse pas beaucoup. Donc il y a cette première conséquence politique. Et puis il y a évidemment la conséquence anthropologique qui fait que si on considère que la perfectibilité n'est possible qu'à l'aune de notre manque, justement, et manque qui peut être symbolisé, transformé en création, en pensée, en culture, puisque le manque, au fond, c'est à partir de lui qu'on a produit la culture. Le mythe de Prométhée, il peut être interprété comme ça. Prométhée permet l'invention de la technique, mais aussi de la culture. C'est parce qu'on est nu et qu'on n'a rien, et que grâce au feu, on va pouvoir inventer, créer des conditions d'existence où tout à coup surgissent des villes, des œuvres d'art, autre chose que... le cycle naturel. Et donc chez Rousseau, le projet de la perfectibilité, il est proprement humain, c'est-à-dire qu'il est fondé sur notre fragilité. C'est d'ailleurs pour ça que la perfectibilité peut aussi tomber de l'autre côté, c'est-à-dire que si on vit dans des institutions injustes et totalitaires, on peut devenir soi-même un monstre, c'est-à-dire qu'on peut régresser. Et le fait de pouvoir se perfectionner ou de régresser en fonction des institutions politiques montre bien que ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Or, le transhumanisme, il parie pas du tout sur la liberté humaine, il parie sur le perfectionnement de ses capacités. Or, les capacités, c'est pas ça qui fait l'humanité. Les ordinateurs sont bien meilleurs que nous, les animaux pensent. Donc, en quoi on serait différent? Dans ces cas-là, on est clairement perdant. Donc, à partir de cette définition-là, on pourrait se demander, mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi l'humanité? Justement, c'est pas la pensée, même si ça y participe. En tout cas, ce n'est pas la pensée qui fait la singularité. Parce que, encore une fois, on revient à ce cogito. Est-ce que le cogito doit être interprété comme la pensée ou comme juste la conscience? C'est-à-dire ce qui fait écart, ce qui fait rupture avec le flux des connaissances, le flux de la pensée, ce qui vient interrompre, justement. Et moi, il me semble que c'est plus intéressant d'aller investir ce lieu d'interruption, de rupture, et qu'à partir de là, on peut repenser, en effet, éventuellement la perfectibilité, mais qui est fragile, elle aussi. On le voit bien aujourd'hui à l'heure de régressions multiples.
Parce que justement, donc, l'idée, c'est de, comme vous le montrez bien, c'est de voir comment cette idée de perfectibilité permet jusqu'à un certain point Rousseau et Hobbes de répondre justement à cette ouverture de l'infini de l'époque moderne. Et vous interrogez, pour revenir à Spinoza et à Nietzsche, vers Deleuze. Il y a un autre versant, qui est un versant, on va dire, plus philosophique, voire métaphysique, mais on rediscutera ce mot-là, parce qu'évidemment, il est au cœur de votre idée, qui est ce que vous appelez l'immanentisme, c'est-à-dire créer des univers spéculatifs devant décrire ce qu'est le monde, complètement plein, pour le coup, sans altérité, et jusqu'à un certain point, surtout sans cette altérité métaphysique qu'est Dieu, qu'on l'appelle Dieu à ce moment-là, ou que ça devient autre chose après. Et là, c'est, je pense, aussi une lecture extrêmement intéressante que vous faites, c'est-à-dire de montrer comment il y a vraiment, d'abord, cette lignée Spinoza-Nietzsche-Deleuze, elle a pour horizon l'idée qu'il faut sortir de la transcendance et que tout est tout. Et que cette chose-là, elle a une conséquence dans la lecture du manque et dans surtout l'impossibilité qu'elle crée du manque.
Et de la négation, parce qu'il y a de la négation sans cesse, mais du tragique, enfin du... Alors c'est bizarre de dire ça pour Nietzsche, hein, bien sûr, mais c'est pour ça que Nietzsche, je le mettrais un peu à part, parce que ça c'est...
J'avais une question à ce propos.
Mais je dirais de cette structure non récon... Enfin, de ce trou, en fait. C'est pour ça que, quand on parle de transcendance, et donc je vais y revenir, hein, puisqu'on pense à Dieu, c'est pour ça que j'ai complètement évacué la question de la religion de ce livre, parce que pour moi, c'est pas ça. Enfin, là, je donne pas mon avis personnel, si je suis croyante ou pas. En l'occurrence, je suis pas religieuse. Enfin, j'adhère pas à une religion en particulier. Je crois pas particulièrement, enfin, j'en sais rien, bon, bref, on s'en fiche, c'est pas la question, mais en tout cas, c'est pas du tout ça que je cherche à nommer. J'essaye de nommer une sorte de faille, de brèche dans l'être. Alors, cette brèche, elle peut prendre le nom de Dieu, pourquoi pas, à condition qu'on lui donne pas un visage, un culte, des textes, etc. Enfin, bon, ça, je mets ça de côté, mais je veux dire, à condition qu'on ne le réinscrive pas dans une pensée. Parce que si on le réinscrit dans une pensée, il est récupéré par l'immanence. Et en fait, ce dont j'ai l'impression, alors Spinoza, c'est la perfection absolue de la pensée. Pour moi, c'est vraiment, l'éthique, c'est juste un livre trop parfait d'une certaine manière. Il faudrait y inscrire une sorte d'imperfection. C'est ce que voulait Picasso, hein, quand il disait qu'il fallait qu'il inachève à un moment donné ses œuvres, parce que sinon c'était la mort, quoi. Et donc, dans cette perfection, on part du tout. Donc forcément, on n'en sortira pas. Ça, c'est le point de départ. Et moi, ce qui me pose problème là-dedans, je ne vais pas du tout faire une critique de Spinoza, parce que, là encore, je ne vais pas rentrer dans les textes. Après, donc, Nietzsche et Deleuze. Le problème de l'immanence totale, pour moi, et d'abord dans la critique de la transcendance, c'est justement d'avoir confondu la transcendance avec un arrière-monde. Moi, ce que j'appelle transcendance, c'est cette trouée dans l'immanence, c'est-à-dire l'idée que tout n'est pas de l'ordre de l'être. Juste ça, enfin, l'idée qu'il y a des choses comme ça, enfin, il n'y a pas des choses, mais parce que justement, ce n'est pas des choses. Tout n'est pas de l'ordre de l'être. C'est difficile de dire autrement. Voilà. Et dire il n'y a que de l'immanence, comme le fait Deleuze, ben c'est un geste proprement dogmatique, au sens où Kant le définit, c'est-à-dire on ne peut pas dire quelque chose qui dépasse le champ de l'expérience possible. Or, dire il n'y a que de l'immanence, ça dépasse assez largement, il me semble, le champ de l'expérience possible. Et donc, c'est tout à fait péremptoire et contestable, il me semble. Mais surtout, derrière, ça veut dire que, en fait, c'est une critique des religions ou de la morale, enfin, de tout ce qui pourrait être transcendant, valeur transcendante, etc. Mais c'est une façon, pour moi, de considérer que la transcendance est elle-même immanente. Parce que la transcendance, c'est pas un autre petit monde où où il se passe des choses et où il y a des gens qui parlent. Bon, je caricature, bien sûr, où il y aurait des valeurs. Non, c'est pas... Enfin, si on part de ça, c'est tout à fait critiquable, en effet. Enfin, c'est facile de venir contester l'existence de cette transcendance. Mais si juste on dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a que de l'immanence, juste ça, de manière négative, alors, d'une certaine manière, ça vient inquiéter tous les fondamentaux de Deleuze, et surtout sur cette question de la négation, puisque à partir du moment où il n'y a que de l'immanence, la négation, elle ne peut être que intra-phénoménale, que à l'intérieur du monde. Donc il n'y a que du négatif relatif, et en fait il n'y a que du relatif. Si tout est immanent, tout est relatif. Et moi, il me semble que le prix à payer à ce tout est relatif est extrêmement lourd. Parce que sur quoi on va pouvoir justement fonder cette égalité, par exemple. Qu'est-ce qui est égal ? Rien. Ça n'existe pas. Il n'y a d'égalité que de l'incommensurable, c'est-à-dire du non relatif. Alors de là à parler d'absolu, bien sûr, puisque c'est l'autre définition du non relatif, il n'y a qu'un pas, mais à condition d'entendre par absolu juste ce qui n'est pas en relation. Et pas tout de suite réincarné, réifié, ou ce qui n'est pas en relation. Comment peut-on penser la dignité ? Alors on peut penser que la dignité, ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas. Ça n'existe que parce qu'on la pense. Mais parce qu'on la pense, on introduit quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la relation. Donc il y a une performativité du négatif.
Donc finalement, la lecture que vous faites, c'est-à-dire que le reproche, entre guillemets, la critique philosophique que vous faites à Deleuze, c'est partant de Spinoza et de Nietzsche, qui, l'idée de Spinoza, c'est que finalement tout peut être connu, il y a simplement, on est plus ou moins ignorant, mais dans l'absolu, on pourrait tout connaître. Mm-hmm. Côté Nietzsche, les valeurs sont construites, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a que des apparences, et de ça, Deleuze déduit un monde complètement immanent, fait de relations avec toutes les images qu'il sait employer avec talent, le rhizome et autre chose. Et ce que vous dites, vous, c'est que créant, ça c'est aussi très intéressant dans le livre, c'est que créant ce monde d'immanence pure, il est finalement contre-productif par rapport au point de vue où il se place, c'est-à-dire que lui pense être dans une critique de la transcendance, affrontant des idoles qu'il considère comme étant des idoles réactionnaires ou de droite, pour simplifier. Et finalement, ce que vous dites, pour revenir au début du livre, c'est que ce monde absolu d'immanence et de relation, dans lequel il n'y a de valeur aux choses que celles que les individus leur accordent, c'est le monde du marché intégral dans lequel nous vivons.
En tout cas, structurellement, c'est totalement compatible.
Voilà.
Évidemment, c'est pas ce qu'il veut dire, mais structurellement, je vois pas la différence. Enfin, là, je vais un peu vite quand je dis ça. Mais structurellement, c'est soluble, c'est compatible. Et tant qu'on ne sortira pas du champ d'immanence total, je ne vois pas comment on peut construire une critique du marché comme total. Je ne dis pas que le marché est nécessairement mauvais s'il est localisé, mais comme structure totale du monde. Et je ne vois pas philosophiquement comment on va pouvoir fonder quelque chose qui ne serait pas soluble, récupérable, compatible avec le marché.
Et donc, c'est aussi pour ça que dans la dernière partie du livre, vous revenez, entre guillemets, à Descartes et à Sartre, c'est-à-dire, si on veut sortir l'être de cet horizon-là, il faut créer ce que vous avez appelé ce trouble, cet écart. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant dans la lecture que vous faites du cogito. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, historiquement, un lien très proche entre Descartes et Spinoza, enfin, la façon dont Spinoza récupère Descartes. Et vous dites, il y a quand même un vrai écart, c'est que le « je doute », le « je pense » de Descartes, c'est pas « l'homme pense ». C'est pas une définition générale, on va dire, l'homme pense, c'est je pense. Et au bout du doute, il y a cette fait que je doute, donc j'existe puisque je suis là pour douter. Et que ce que vous montrez très bien, c'est que c'est en réintroduisant cet écart, en rappelant la force de cet écart, qu'on montre à quel point il y a un usage de Descartes qui, là aussi, il y a une inversion des valeurs, au sens que Descartes est devenu une espèce de statue un peu momifiée. Alors que vous montrez que
le grand méchant aujourd'hui.
Voilà, alors vous, à cause de comme maître et
la malheureuse parole,
exactement, la malheureuse parole de maîtrise de la nature. Et ce que vous montrez au contraire, c'est que il y a un trouble là qui permet de réintroduire un manque, ce manque étant non pas un manque qui rend malheureux, mais un manque qui rend la vie intéressante.
Bien sûr, pas forcément heureux, mais intéressant.
Oui.
Ce que fait Descartes dans la troisième méditation, alors d'abord avec cette échappée du cogito hors du tout, ça c'est la manière dont Derrida en parle et que je trouve extraordinaire, mais surtout dans la troisième méditation, c'est-à-dire cette confrontation du jeu avec donc, ce qu'il appelle Dieu pour le coup, là, au 17e, mais d'abord c'est pas Dieu, c'est d'abord l'idée d'infini, donc avec l'infini, fait qu'au même moment où le sujet devient souverain, en quelque sorte, enfin, où tout va partir de lui, où le jeu s'impose, et la seule chose dont je puisse être certain, enfin, que je suis en train de penser, à ce moment même, je m'aperçois que je suis dépendant, c'est-à-dire que je ne suis pas à l'origine de mes pensées. Donc au moment même où je deviens souverain, je m'aperçois de ma propre dépendance. Donc en fait, ce que Descartes a fait, c'est qu'il a réussi à modéliser une structure de souveraineté assujettie. d'un ego, enfin d'un jeu qui se fonde sur son impuissance. À la fois, au même moment où il se fonde, il est dessaisi en quelque sorte. Bon, après, il va être rassuré par la bonté de Dieu, etc. Bon, après, on va dire que on s'en occupe pas. Pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la façon dont, dans les trois premières méditations, il arrive à mettre ça en place. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout dit. Qu'il a dit à la fois je, enfin, et je vois pas comment on peut se passer du sujet, même si aujourd'hui, enfin, depuis les années 70, on veut s'en débarrasser. Mais pardon, mais je vois pas en quoi se débarrasser du jeu, pas du sujet. Enfin, voilà. Après, il faudrait évidemment faire un petit travail sur qu'est-ce qu'on entend par jeu, mais juste jeu, voilà. Juste l'épreuve de quelque chose qu'on appelle soi, enfin qu'on va dire je. Bon, voilà. Comment on peut s'en débarrasser, ça me paraît extrêmement dangereux. Et aujourd'hui, on veut encore s'en débarrasser au nom de la nature, du tout, du... Bon, ok, moi, je trouve que c'est hyper dangereux, pour d'autres raisons encore, mais on n'a pas le temps de développer. Mais donc, ce jeu, au même moment où il arrive, il est dessaisi. Et donc, là, on a la structure de la non-coïncidence avec soi-même. On a la structure de cette... de l'incommensurable, c'est-à-dire que je est tout à coup devant de l'incommensurable. Il éprouve, enfin, il a une idée de l'incommensurable sans pouvoir le penser. Et donc, ce qui va asseoir pourtant toute la pensée moderne, Descartes, même si on le contredit, tout le monde va se référer à lui. Et donc, la pensée moderne dont on dit effectivement qu'elle sera la raison du maître et possesseur de la nature, enfin, comme maître et possesseur de la nature, il ne faut pas oublier le comme, mais on l'oublie vite, je ne sais pas, du progrès des sciences et de la domination sur la nature, etc. Et bien, celui dont on dit qu'il est le père de tout cela, c'est aussi celui qui dessaisit en même temps le jeu de sa souveraineté. Donc, pour moi, on est exactement à cet endroit-là où il faut revenir à cet endroit-là pour comprendre le double jeu, en fait, J-E-U cette fois-ci, il est les deux. Il est à cet endroit-là de non-récupération de soi-même. Et donc, il ne pourra pas tout connaître, contrairement à ce que veut dire Spinoza. Il ne pourra pas tout connaître, non pas parce qu'il n'a pas le temps, mais parce que structurellement, c'est impossible, puisque tout n'est pas de l'ordre du connaissable.
Et ce qui permet aussi, ce que vous dites, pour employer un vocabulaire plus contemporain, De maintenir une présence du sujet qui ne soit ni figé ni liquide. Mmh. C'est-à-dire, on n'est ni dans l'identitarisme, qui est un autre travers de l'époque, là, ni dans la vie liquide décrite par Bauman, c'est-à-dire une espèce de fluidité absolue qui, finalement, est un refus d'identité et, là, pour le coup, une livraison complète au marché.
Dans les deux cas, soit on est à nouveau dans le dogme ou dans le scepticisme total, dans la dissolution ou dans une affirmation péremptoire et nécessairement de l'ordre d'une croyance. Tout retour aux identités, c'est l'inverse évidemment du cogito. Enfin, c'est le retour à une croyance dogmatique. Donc oui, et c'est pour ça que tenir ce jeu, mais non pas comme un jeu tout puissant, un jeu dominant, un jeu comme le lieu. D'une épreuve du monde et de l'épreuve d'un échec en quelque sorte. Mais c'est de cet échec qu'on peut avoir un rapport au monde qui soit signifiant ou qui fait qu'on va donner du sens aux choses. Entrer dans le champ du symbolique, encore une fois, de la culture. Enfin, voilà, c'est de cet échec, c'est de cette impuissance-là, de cet écart entre le fini et l'infini, pour reprendre de manière simple, enfin, avec des catégories simples. C'est de cet écart-là, qui est irréductible, qu'on peut repenser le monde et notre rapport au monde. Et de ce fait, les limites aussi de ce qu'on peut en dire et les limites de ce qu'on peut affirmer dans le champ politique, par exemple, ou les limites de la science. Avec la science, elle est illimitée, mais elle est limitée en son champ. Elle n'est pas totale dans le sens où elle n'a pas de réponse à tout. Elle a des réponses aux questions qu'elle pose, elle. Mais donc, les questions qu'elle pose, ce ne sont pas forcément les mêmes questions qu'on posera dans le champ du politique, par exemple, ou de l'éthique. Donc voilà, c'est redéfinir des limites. C'est un projet très ancien, hein, en fait. Mais c'est redéfinir des limites pour que tout ne soit pas dans tout, justement. Les champs, il y a des champs qui sont hétérogènes. Il faut maintenir leur hétérogénéité. Et c'est en maintenant leur hétérogénéité qu'éventuellement, on peut penser des articulations. Mais si tout est dans tout, je ne vois même plus comment on peut penser, même d'un point de vue conceptuel. Quoi.
Donc, est-ce que ce que vous appelez finalement à la fin avec, avec Lévinas, le désir métaphysique, c'est l'idée qu'à la fois, on pense des limites, mais on sait aussi qu'il y a un au-delà de la limite, même si cet au-delà n'est pas connaissable, et que c'est dans cette tension-là que se crée l'ouverture et donc ce désir.
Le fait même de connaître la limite fait que forcément il y a quelque chose d'autre. Sinon, on ne saurait pas que c'est limité. Donc juste le fait de connaître ses limites, enfin d'entendre ce que veut dire la limite de la pensée, notamment, ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'aller voir derrière, mais veut dire que structurellement, on ne pourra pas aller voir derrière. Alors, il n'y a sans doute, y a pas de derrière, puisqu'on ne sait pas. Enfin, je veux dire, je ne suis pas en train de tenir des propos mystiques, religieux ou quoi que ce soit. C'est juste que dire la limite, c'est dire je ne peux pas avoir un discours totalitaire sur les choses. Enfin, d'une certaine façon, c'est juste ça que ça veut dire. Dire la limite, ça veut dire un refus intégral du dogmatisme. Et également du scepticisme lorsque lui-même devient dogmatique, puisqu'il se prétend définitif. C'est la voie, encore une fois, de la critique qui est la plus difficile. Parce que la critique s'alimente à ce vide, à cette négation qu'on peut introduire dans l'être et qui fait que tout n'est pas de l'ordre de l'être. Et c'est parce que je l'introduis qu'il est là. Sinon, il ne me préexiste pas. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la trouée, quoi.
Mazarine Pinjot, merci beaucoup pour cette très belle exploration du manque. Merci à vous.
Merci.